Acheter au meilleur prix, vendre avec le maximum de profit ou le minimum de pertes, c'est presque devenu un impératif moral de nos sociétés marchandes. Mais est-ce que tout s'achète? Est-ce que tout se vend? Et si je vous donne quelque chose qui m'appartient en propre, un objet ou une connaissance, sans vous demander la moindre contrepartie? C'est rare, mais ça arrive. Cadeau. Comme ça. Pour rien. Pour le plaisir. Contre rien. On appelle ça un don. Cette chose qui est à moi te plaît, ou bien tu en as besoin, je te la donne. Mais qu'est-ce que je donne en donnant cette chose? Et est-ce tout à fait sans contrepartie que j'en abandonne la propriété? Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un mot sympathique, mais bien plus compliqué qu'il n'y paraît, le don.
Pourquoi y a-t-il trois grâces et pourquoi sont-elles sœurs? Pourquoi se tiennent-elles par la main? Pourquoi ont-elles le sourire, la jeunesse, la virginité, une robe sans ceinture et transparente? Selon certains auteurs, il y en a une pour adresser le bienfait, une autre pour le recevoir, une troisième pour le rendre. Selon d'autres auteurs, il y aurait trois sortes de bienfaisance qui consistent respectivement à obliger, à rendre, à recevoir et à rendre tout à la fois. Pourquoi les mains sont-elles entrelacées en cette ronde qui revient sur elle-même? Parce que le bienfait forme chaîne, et tout en passant de main en main, ne laisse pas de revenir à son auteur, et que l'effet d'ensemble est détruit s'il y a quelque part interruption, tandis que la chaîne est fort belle si elle n'est pas rompue entre-temps et si elle se perpétue dans la succession des rôles. Sénèque, Traité des bienfaits.
Le mot don vient directement du latin classique donum, qui désigne l'action de donner, l'acte de faire un cadeau, et ce que l'on offre, le présent. Dès ses premières utilisations connues en langue française, dans la deuxième moitié du Xe siècle, le mot don est employé dans la locution verbale faire don, pour désigner l'action de donner, de céder gratuitement ou volontairement la propriété de quelque chose à quelqu'un. C'est en ce sens-là que le don dans le vocabulaire juridique a pour synonyme le terme de donation. Don mutuel entre époux, entre vifs, etc. Par extension, le don a vite désigné l'action d'offrir quelque chose, au sens où l'entend par exemple Jean Kelevitch lorsqu'il écrit « Un don sans amour ne vaut guère mieux qu'un refus ». Par métonymie, en 1080, le don, action de donner, s'est mis à valoir pour l'objet même qui est donné. Puis au figuré, pour l'action de s'offrir soi-même, de s'abandonner, de se remettre aux soins de quelqu'un en se fiant à lui, spécialement dans le vocabulaire amoureux ou le vocabulaire des liens du mariage, le don de son cœur, le don de sa main. Dans le prolongement de ce sens, le don a commencé aussi à désigner l'action de renoncer à quelque chose en faveur de quelqu'un, renoncer à sa liberté, par exemple dans le mariage, ou même renoncer à sa vie, par exemple en faveur d'un idéal, à travers une expression comme « faire don de sa personne ». Ici, l'idée de don est proche de celle de sacrifice, l'action de se sacrifier, le renoncement, l'abnégation. Par métonymie, le don s'est alors orienté vers l'idée de ce que l'on donne sans rien recevoir en retour. C'est le sens du don gratuit, un don totalement désintéressé. En poursuivant dans cette voie, le français du XIVe siècle invente l'idée de don comme faveur extraordinaire, avantage venant de Dieu ou de la nature, puis au XVIe siècle l'idée de faculté innée, le don de prophétie, d'ubiguïté, de voyance, de seconde vue, le don des langues, le don artistique, etc. Avoir le don de quelque chose, c'est être doté de pouvoirs particuliers en ce domaine, être doué. Ainsi conçu, le don est une qualité personnelle, un talent particulier, une disposition innée, ou une sorte d'inclination naturelle pour quelque chose. C'est le sens que l'on trouve aussi dans l'expression « avoir le don de », plus infinitif, avoir le don de plaire, de convaincre, etc. C'est également ce sens qui se trouve recyclé au XVIIe siècle par le vocabulaire des contes de fées, où le don désigne la faculté, le plus souvent merveilleuse, accordée à un enfant par une bonne fée qui se penche sur son berceau. Mais naturellement, il y a aussi des mauvaises fées qui peuvent s'être penchées sur votre berceau. Et alors là, les facultés et les pouvoirs peuvent être négatifs. Et toujours encline à l'ironie, la langue française n'a inventé le don des fées qu'avec sa réciproque péjorative, dans l'usage ironique, avoir le don de rendre ennuyeuses les choses les plus intéressantes. Vous avez le don de me porter sur les nerfs, de m'énerver, etc.
Cette pauvre poignée de main gisée, oubliée en chemin par deux amis fâchés à mort, quelque peu décontenancée, elle était là dans le fossé. Je la recueillis sans remords et je repris ma route avec l'intention de faire circuler la virile effusion, car c'est une des pires perversions qui soit de garder une poignée de main par devers soi.
Qu'est-ce que donner ? Est-ce offrir quelque chose ? Se dessaisir d'un bien qu'on possède personnellement pour en remettre la propriété à quelqu'un d'autre ? Et si c'est bien ça, à quoi correspond ce geste et ce type d'échange ? D'ailleurs, s'agit-il à proprement parler d'un échange ? Si je donne, c'est en principe sans attendre de contrepartie matérielle. Sinon, ce ne serait plus un don, ce serait une transaction, une vente ou un simple troc. Mais est-il tout à fait sûr que je fasse un don sans en attendre moi-même quelque chose ? Si j'offre un cadeau, je suis en droit d'espérer de la part de celui qui le reçoit l'expression de son remerciement. J'attends de la reconnaissance ou du moins certains signes de reconnaissance. Mais qu'est-ce que c'est que la reconnaissance ?
Un jour que les élèves de Socrate lui offraient des présents, chacun lui apportant à proportion de ses moyens, Échine, qui était pauvre, lui dit « Je n'ai rien à t'offrir qui soit digne de toi. Et c'est ainsi que j'ai compris que j'étais démuni. C'est pourquoi je t'offre la seule chose que je possède, moi-même. Ce présent tel qu'il est, je te demande de l'accepter et de te souvenir que si les autres t'ont donné beaucoup, ils ont néanmoins gardé une grande partie pour eux-mêmes. » À quoi Socrate répondit « Comment cela ne serait-il pas un grand présent ? À moins que tu ne te reconnaisses peu de valeur. C'est pourquoi je veillerai à te rendre à toi-même un homme meilleur que celui que j'ai reçu. » Sénèque, Traité des bienfaits.
Marcel Hénaff, vous êtes philosophe et anthropologue. Vous enseignez à l'Université de Californie, à San Diego. Et alors, tout récemment, vous venez de publier aux éditions du Seuil, dans la collection La couleur des idées, une étude de 550 pages qui porte pour titre Le prix de la vérité. Et pour sous-titre Le don, l'argent, la philosophie. Ce livre constitue à la fois une histoire et une sorte de théorie dramatisée du don. Vous êtes Marcel Hénaff, l'homme de la situation. Parlons du don ensemble. Il faut, dites-vous, commencer par reconnaître que le mouvement du don diffère essentiellement de l'échange marchand, et même de sa forme primitive, le troc.
Oui, en effet, la réflexion sur le don s'est tellement concentrée sur la chose donnée qu'on a nécessairement, ou on a cru nécessairement devoir comparer ça au commerce, qui est une circulation de biens, et de voir dans les rapports de don un échange de biens qui aurait simplement la vertu d'être désintéressé. On l'a comparé au troc, ce qui n'est pas forcément, loin de là, un échange désintéressé. C'est un équilibre entre des biens qu'on cède pour des biens qu'on reçoit. C'est en fait un échange sans argent. Alors, je crois que si on veut essayer de comprendre le rapport de don, et je ne parle même pas simplement du don moral, en se concentrant d'abord sur cet échange de biens, je crois qu'on manque le sens même de ce que c'est que, dans toutes nos traditions, le rapport de don.
Et écoutons ce que nous en dit un poème scandinave qui est cité par Marcel Mauss.
Je n'ai jamais trouvé d'homme si généreux et si large à nourrir ses hôtes, que recevoir ne fut pas bienvenu, ni d'homme si dépensier que recevoir en retour lui fut désagréable. Les amis doivent se faire plaisir avec des armes et des vêtements. Chacun le sait de par lui-même, ceux qui se rendent mutuellement des cadeaux restent le plus longtemps amis. L'avare a toujours peur des cadeaux. Un cadeau donné attend toujours un cadeau en retour.
Alors, Mauss, qui cite ce texte, en donne encore d'autres strophes, il nous met sur la bonne route. Il nous propose de comprendre le don à partir du don cérémoniel, et du don cérémoniel réciproque. En tout cas, je l'appelle cérémoniel, lui l'appelle encore archaïque. Et dans ce texte, on voit qu'au fond, il n'est pas question du don unilatéral, qui est le don moral. Céder quelque chose à quelqu'un sans contrepartie. Au contraire, là, on a la contrepartie. Et cette contrepartie est nécessaire.
Alors en fait, votre livre commence par une évocation douloureuse qui est la mort de Socrate. Accusé d'avoir perverti la jeunesse, Socrate est condamné à mourir. Des amis lui proposent de payer ses geôliers pour qu'il puisse s'enfuir et échapper à une mort injuste. Mais Socrate refuse. Il ne veut pas devoir sa survie à la corruption. Lui qui précisément a toujours refusé la corruption au point de ne vouloir aucune rémunération pour son enseignement. On n'échange pas la vérité contre de l'argent. Et l'argent ne peut acheter qu'un simulacre de vérité. Et au fond, c'est ce qui peut-être le conduit à penser que les sophistes, eux qui exigent d'être payés pour leur enseignement, ne délivrent pas de vérité. On peut dire que la question du don se pose sous cette forme à l'origine même de la philosophie, Marcel Hénard.
En réalité, il s'agit d'une longue tradition, celle de la vieille sagesse grecque, les sophoi qui étaient comme des chamans et qui, quelquefois dans des états de transe, recevaient une révélation et la transmettaient à des disciples. En fait, la sagesse, c'est quelque chose de reçu. On ne le comprend pas bien chez Platon, on voit sa hargne envers les sophistes, mais on le comprend mieux chez Aristote. Et ce qu'on comprend finalement, c'est que la sagesse est donnée. Socrate la reçoit, il dit « le Dieu est moi », ce que le Dieu pense. La sagesse lui est donnée, il ne peut donc pas la vendre. Et de même, cela explique la maïeutique, ce qui est sa tâche, dit-il, c'est de révéler, c'est chez ceux qui en sont capables, la sagesse qui est en eux, le savoir qui est en eux, quelque chose qui leur est donné à eux aussi, et donc il ne peut pas leur vendre.
Oui, on peut pas vendre la réminiscence de ce qui est déjà acquis par celui qui a la redécouvert en lui-même. Quoi. C'est un don de Dieu. Et on retrouve alors la signification de don qui est un peu celui des faits, celui de...
Tout à fait, oui, c'est reçu, c'est un don premier, c'est un don qui nous précède. Et ce don qui nous précède, c'est une sorte de grâce aussi, c'est un autre sens du mot don, enfin c'est une autre racine. Mais ce don premier, ça serait pour Platon ce qui situe la philosophie entre deux traditions. Celle que Socrate représente, d'une part celle de cette réception, de ce don qui a été fait, et l'autre de la philosophie comme un débat public, comme un débat argumenté dans la communauté. Et donc, se tenir entre les deux, non pas posséder la sagesse, mais la désirer, être celui qui la reçoit et en même temps celui qui la réveille, voilà, dans un débat et dans des arguments logiques également, voilà où se tient la philosophie. Et ça, c'est invendable.
Oui, et Aristote ajoute que le savoir et l'argent n'ont aucune commune mesure.
Ça ne peut pas être évalué, ça ne peut pas être quantifié.
Mais à qui donner ce que j'aime? Mais à qui donner ce que j'aime? Au fond de moi, tout au fond de moi.
Quelque part, quelqu'un doit avoir besoin.
Le don, finalement, contient l'action de recevoir autant que celle de donner. Le don, c'est pas seulement l'acte d'offrir, c'est l'objet donné, c'est l'activité de celui qui le reçoit aussi.
Alors, le don réciproque cérémoniel, c'est ce que Mauss nous a justement permis de comprendre. Il l'a défini de la manière suivante, il l'a reconnu dans toutes sortes de textes disponibles déjà au début du XXe siècle, qui était que donné dans les traditions, dans toutes les populations qui avaient été étudiées par Malinowski, Boas et bien d'autres, c'était qu'il est obligatoire de donner, mais du même coup, il est indispensable d'accepter le présent, et surtout, il est capital de rendre. Et c'est, ou de rendre, pas de rendre la même chose, mais de faire un don en retour. Et c'est ce don en retour qui a étonné Mauss. Il comprenait, comme nous tous, que donner c'est beau, que le don moral est toujours légitime. Par contre, ce qui est étonnant, c'est l'obligation de rendre. On ne demande pas à un enfant qui a été comblé de rendre ce qu'il a reçu, ni à un pauvre de retourner l'aumône. Et là, je crois que Mauss manque quelque chose, c'est qu'il faut comprendre l'obligation de donner.
Oui, c'est ça. Ce qui est étonnant, c'est qu'il ne s'est pas posé les questions de savoir pourquoi il faut donner.
Il le constate, mais il ne sait pas comment expliquer, sinon par le geste de rendre. Et j'ai cru que pour cela, il fallait changer de terrain. Il fallait poser la question du don d'une manière tout à fait différente et reprendre les textes. On a des quantités considérables de documents ethnographiques là-dessus. J'en cite un dans mon livre qui est impressionnant. C'est celui d'un informateur en Nouvelle-Guinée, qui répond à un anthropologue anglais, Andrew Stratton, qui lui demande « Bon, comment ça s'est passé, la rencontre avec les premiers Blancs ?» Et il dit « Voilà, j'étais un jeune homme, et on a vu arriver un jour dans le village un être étrange, pâle, blanc, avec un casque et un vêtement, un accoutrement que nous ne connaissions pas, et nous ne savions pas si c'était un être humain ou un esprit cannibale qui venait nous dévorer. » Et nous avons fait la chose suivante, nous lui avons offert des cochons. Et il a sorti de son sac des coquillages en retour pour le don que nous l'avons fait. Et à ce signe, nous avons su que nous avions affaire à un être humain. Et donc, je crois que là, on a la réponse. Le don réciproque cérémoniel, c'est le geste par lequel un groupe ou un individu statutaire représentant le groupe donne à l'autre groupe, à l'autre individu, quelque chose de soi, ce que Mauss a bien vu, comme gage et substitut de soi. C'est-à-dire, on s'engage dans l'espace de l'autre. On dit, tu es autre, mais je te reconnais en te donnant quelque chose de moi que tu vas posséder dans ton espace et pouvoir éventuellement maîtriser. On le protège donc pas des magies. Et c'est cela. Ce n'est pas donner au sens de gratifier, d'enrichir l'autre, de le combler, mais c'est faire cet acte d'alliance qui fait que le lien social existe.
Oui, vous montrez bien dans votre livre qu'il y a trois sens finalement à cette idée de reconnaissance à travers le don. Reconnaître, respecter, dire merci. L'identification, le fait de faire allégeance et la gratitude, c'est ça?
C'est tout à fait ça. Et je crois que c'est intéressant dans ces cas-là de voir comment ça se passe dans d'autres espèces animales, les primates supérieurs comme les gorilles, les chimpanzés. Et on voit justement que ils ont toutes sortes de choses en commun avec nous, très complexes, y compris, on le sait maintenant, un peu d'outillage. On trouve même le partage de la nourriture. Et on a vu ça, un beau don moral chez le chimpanzé. Je dis attention, ce n'est pas cela. On n'a pas chez eux, justement, cet échange d'un objet qui serait gardé avec quelque chose dans le temps, rendu plus tard, sous une autre forme, selon un moment indiqué. On n'a pas, malgré toutes les recherches qu'on a faites, vu ce genre de procédure. Et là, je vois que par-delà le lien proprement social, il y a un lien éthique et politique qui définit les sociétés humaines.
Et alors, ce don, c'est un don qu'on accepte ou un don qu'on refuse? Parce que dans cette réciprocité, au fond, on peut tout à fait imaginer que la médiation se noue ou se dénoue ou ne se noue pas. Et alors, on est peut-être assez proche à ce moment-là d'une situation un petit peu hegelienne, qui est celle de l'agressivité ou de l'agression, du verbe agredior en latin, je vais à la rencontre de l'autre. Mais dans ce face-à-face premier, le refus qui va se traduire par l'imminence d'un combat, comment vous l'interprétez dans votre théorie du don?
Les combattants hegeliens, la lutte pour la reconnaissance, c'est justement qu'ils n'ont rien à échanger. Enfin, ils n'ont pas quelque chose qu'ils donneraient à l'autre comme possibilité et de gage et de substitut de soi. Ils sont face à face avec leurs armes. Or justement, le don réciproque cérémoniel n'est pas un consensus mou, ce n'est pas un acte gentil, c'est un choix entre donner ce gage ou combattre. Et donc, c'est ou le don réciproque cérémoniel ou la guerre, ce qu'a très bien compris Mauss aussi. Et donc, ce don cérémonial n'est pas du tout un don hegelien, en tout cas, n'est pas la reconnaissance hegelienne. Lui, le penseur de la médiation, manque au départ la médiation, et ne la trouve que par l'intermédiaire du vaincu qui n'est pas tué, et qui devient la médiation ensuite dans l'opération.
Mais je peux faire aussi un don si grand que l'autre ne pourra jamais respecter sa réciprocité.
Alors, c'est là où le don devient hiérarchique, et où le don engendre la dette, et à ce moment-là, on a vraiment ce que j'appelle ailleurs dans mon livre la dette de dépendance.
Éclater et tous ces lilas blancs et ses gros yeux rouges et ses rires d'enfant et Christine si belle sous ses jupons blancs avec au beau milieu l'éclat de ses 20 ans. Est-ce Dieu, est-ce diable ou les deux à la fois qui un jour s'unissant ont fait ce printemps-là? Est-ce l'un, est-ce l'autre? Vraiment je ne sais pas, mais pour autant de beauté merci et chapeau bas. Le voilier qui s'enfuit, la rose que voilà, et ses fleurs et ses fruits, et nos larmes de joie, qui a pu nous offrir toutes ces beautés-là, cueillons les sans rien dire, va, c'est pour toi et moi.
Et aujourd'hui, on en est où par rapport à cette affaire de don? C'est quoi donner aujourd'hui, dans un monde qui est entièrement dominé par les relations vénales, financières? Est-ce qu'il y a encore la place quelque part pour du don?
Bien entendu. Du point de vue du don réciproque cérémoniel, toutes nos formes de politesse, nos échanges, sont du don réciproque. Ce sont des échanges de mots par lesquels nous nous reconnaissons. Il y a aussi toutes les invitations que nous faisons les uns aux autres. Ceci dit, il n'en demeure pas moins qu'à un niveau social plus global, au niveau des sociétés politiques, qu'en est-il du don? Et je dis justement, si le don réciproque cérémoniel est la forme de reconnaissance publique réciproque dans les sociétés traditionnelles, dans les nôtres, où agit une instance de pouvoir central qu'on appelle l'État, Cette reconnaissance publique est accordée par la loi. Mais cela ne veut pas dire que l'exigence réciproque interpersonnelle de reconnaissance n'existe pas. Elle est constante. Et ce sont les civilités et ce sont les gestes que nous nous faisons les uns envers les autres pour reconnaître cette exigence.
Donc au fond, l'objet du don, c'est le respect. C'est le rapport.
C'est le respect. Et c'est le respect pas seulement interpersonnel. Ouais. C'est pas seulement le respect éthique. C'est le respect au niveau politique. Et au niveau politique, cela veut dire que les institutions doivent faire en sorte que la dignité des citoyens, des membres de la communauté, soit assurée. Et pour qu'elle soit assurée, il faut que la circulation des biens, entre autres, que le mode de vie de toute une communauté soit exercé dans la justice. Autrement dit, pour moi, l'esprit du don moderne, ce n'est pas tellement la philanthropie qui va compenser les déficits des inégalités sociales ou financières. C'est ce par quoi nos institutions assurent que cette justice, que le respect de tous, soit garanti à tous.
Un dernier mot, Marcel Hénaff, vous êtes philosophe, vous prononcez la parole philosophique, mais vous n'en faites pas don, vous faites payer pour faire votre travail de philosophe, à la différence de Socrate.
C'est là où les sophistes ont peut-être raison, et c'est là aussi où Socrate a eu tort. On ne vend pas la parole philosophique. C'était le problème qu'avaient résolu les théologiens du Moyen-Âge. On n'est pas payé pour sa parole, on n'achète pas les mots qui sont dits, on compense le travail qui est fait. Et pour ça, il fallait une nouvelle pensée du travail, une nouvelle dignité du travail. Quand on a fait son travail, on n'attend pas que l'employeur nous dise « Voici une boîte de chocolat avec toute mon admiration ». On attend d'être payé. Et ça, vous l'avez chez Saint-Paul, lorsqu'il dit, pour le travail accompli, la rétribution ne doit pas être donnée comme une grâce, mais comme une chose due.